Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez écouter cet audio. Donc, c'est le deuxième audio sur l'atelier management. Aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement la responsabilité sociétale de l'entreprise, les stratégies de l'entreprise et nous allons revoir les différents principes du lean management qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et nous allons aussi parler de mobilisation de ressources humaines. Voilà pour celui d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la responsabilité sociétale de l'entreprise, on pourrait penser que la finalité de l'entreprise est essentiellement le profit. Le profit est une nécessité et la finalité de l'entreprise, c'est sa raison d'être. Parler que le profit est la seule raison d'être d'une entreprise est une notion réductrice à ce jour. Le profit est un indicateur de la performance et mesure l'efficacité économique. Toutefois, les actions déterminent aussi la rentabilité de l'entreprise. Dans un autre cadre d'idées, on pourrait penser que la finalité de l'entreprise, c'est la satisfaction du client, à plus d'un titre. Un auteur qui s'appelle Drucker, D-R-U-C-K-E-R, dit que la maximisation du profit doit tenir compte des facteurs contingents. C'est-à-dire que sur le plan de la responsabilité sociétale, il y a du lien à faire entre la prise de conscience de la société civile, le champ social, le champ environnemental qui représente la notion sociétale, le respect de l'environnement et des collaborateurs, tout ceci qui sont des facteurs de différenciation et de développement, de dynamisation de l'entreprise. Cela augmente bien évidemment l'image de l'entreprise avec l'adhésion des parties en interne. Je vous invite à écouter une vidéo, donc que je vous invite à regarder sur YouTube, qui s'intitule « La responsabilité sociétale de l'entreprise » et qui est...
C'est une belle journée pour Madame HLM.
Voilà, c'est une petite vidéo
animée HLM qu'elle dirige
sur l'exemple de Madame HLM. Donc la vidéo, vous allez la trouver, elle s'appelle « La responsabilité sociétale de l'entreprise » et c'est comme un petit dessin animé. Cette vidéo vous démontre que la responsabilité sociétale de l'entreprise est fondée sur le client qui veut avoir des produits sûrs, qui veut avoir de plus en plus des produits respectueux de l'environnement. Cette responsabilité sociétale tient compte des collaborateurs et surtout de l'épanouissement de ces différents collaborateurs. Elle tient compte aussi des fournisseurs et des concurrents, avec plus une notion de collaboration plutôt que d'exploitation, et bien entendu la société civile, le respect des acteurs et du droit. Sauf que à la responsabilité sociétale, il existe des freins, comme le coût de la mise en œuvre de cette responsabilité sociétale, et certains utilisent comme de l'opportunisme cette responsabilité sociétale pour faire de la communication, ce qu'on appelle en anglais le greenwashing, green comme le mot vert en anglais, washing comme lavage. Dans cette communication, la structure met en œuvre la reconnaissance publique de ses efforts, le respect des normes ISO, du label. Voilà. Donc, cette responsabilité sociétale, c'est à l'interne et à l'externe comment je positionne mon entreprise. Sauf qu'une entreprise doit être performante. Qu'est-ce que la performance? La performance, on peut la matérialiser par un triangle entre des objectifs et des moyens, en cherchant la pertinence entre les objectifs et les moyens utilisés. Ensuite, un lien entre les objectifs et les résultats, dans lesquels on cherche l'efficacité, et bien évidemment, l'efficacité et l'efficience entre les moyens mis en œuvre et les résultats escomptés. Par exemple, un chef d'entreprise qui veut augmenter sa part de marché est un objectif et il peut avoir plusieurs solutions ou plusieurs stratégies pour y parvenir. Il peut, par exemple, accentuer la communication pour trouver de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires, mais aussi il peut choisir de faire des stratégies de diversification ou d'intégration. On verra les stratégies un tout petit peu plus tard dans l'audio. Donc, il est important pour l'entreprise d'avoir la capacité d'atteindre les résultats indépendamment de l'économie des ressources qu'il va utiliser. Ces ressources, pour être efficientes, doivent amener les résultats sans coût important. La performance se mesure aussi par des axes économiques, comme le degré de productivité d'une entreprise, ses performances financières, sa profitabilité ou sa rentabilité. Donc, les performances d'une entreprise peuvent être de plusieurs natures, la performance économique, la performance financière, la performance sociétale et environnementale, la performance relationnelle et organisationnelle, ou encore la performance boursière. Pour mesurer la performance de l'entreprise, en général, l'établissement se base sur un tableau de bord avec du contrôle de gestion, et ce tableau de bord peut être aussi un tableau de bord prospectif avec les sources de performance et les sources de sous-performance. Il y a des indicateurs, notamment, je vous en donne trois. Le premier s'appelle ROI, le retour sur investissement, c'est-à-dire que si j'investis tant de millions d'euros, quelle est la rentabilité que je vais retirer de cet investissement supplémentaire que j'ai mis en œuvre, ou le ROE, le retour sur les capitaux propres, c'est-à-dire que si j'injecte des capitaux propres dans l'entreprise, quel est le retour que je vais avoir de ces capitaux propres. Et EVA, c'est aussi la valeur économique ajoutée qui mesure la création de valeur. Une bonne structure doit s'adapter à l'environnement dont dépend l'entreprise. Les facteurs de contingence sont des éléments internes et externes qui vont influencer de manière déterminante la structure de manière évolutive, et ces éléments influencent les décisions et les actions. Les variables internes, par exemple, c'est la taille de l'entreprise, c'est la standardisation des produits, plus de tâches et de procédures différentes, c'est des formalités de communication plus complexes à gérer, mais aussi cela peut être la décentralisation des pouvoirs et des décisions. Dans les variables externes, on a l'environnement, on peut mettre le climat social, le climat économique et je dirais le climat sanitaire. Pour ce qui est des facteurs de production, pour avoir de la productivité, il y a du lien à mettre en œuvre entre la main-d'œuvre, mais aussi le niveau de formation des salariés, l'organisation du travail et le capital qui représente les équipements mis en place pour avoir de la productivité. L'entreprise peut choisir d'innover. Innovation peut être de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux débouchés, de nouvelles matières premières dont certaines peuvent être plus économiques mais plus respectueuses de l'environnement, ou des modes de production différents. Aujourd'hui, depuis quelques années, la politique gouvernementale française accompagne le développement de la croissance en promulguant des lois et des aides pour favoriser la croissance et en augmentant la consommation des ménages. Ces augmentations contribuent au chiffre économique qui est le PIB, produit intérieur brut. Donc, l'entreprise peut passer par des stratégies. La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation, puis à choisir les modes d'action et d'allocation de ressources qui lui permettront d'atteindre ses buts et ses objectifs. La stratégie globale concerne toute l'entreprise. On en distingue quatre. La stratégie par la spécialisation, c'est-à-dire je me spécialise en un seul produit pour augmenter mon chiffre d'affaires, ou je diversifie, la stratégie de diversification. On va chercher à diversifier les axes économiques pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. L'intégration, où on va intégrer ou acheter une structure, ou encore l'externalisation. On pourrait aussi parler de délocalisation. Présentement, la diversification impose l'utilisation d'un nouvel ensemble de savoir-faire requis par le nouvel univers concurrentiel dans lequel l'entreprise pénètre. Objectivement, elle correspond au mouvement stratégique qui se concrétise par un changement d'activité et subjectivement par l'élargissement du métier de l'entreprise par la coexistence de plusieurs métiers. Pour faire face à la mise en place de ces différents types de stratégies, donc de diversification, d'intégration, de spécialisation ou d'externalisation, l'entreprise a besoin d'avoir de la flexibilité au niveau des ressources humaines et de la motivation de ses salariés. On a vu dans l'audio précédent les éléments qui concourent à la motivation du salarié, c'est-à-dire le sentiment d'être capable, l'importance du gain par rapport à l'action demandée, la relation de cause et effet entre les efforts et les résultats. On parle ainsi de politique gagnant-gagnant. Et c'est en général là que vient se mêler la résistance au changement, qui peut être un frein aux stratégies de l'entreprise qui fait face à différentes stratégies individuelles offensives. Si par exemple, un certain groupe de salariés réclame plus d'avantages que d'autres groupes de salariés. Dans la résistance au changement, chaque individu a sa propre stratégie, mais ses propres raisons pour résister au changement. Un des éléments, par exemple, de la résistance au changement, c'est le changement de niveau de pouvoir. Toutefois, aujourd'hui, le tissu économique impose de s'adapter à l'environnement, de s'adapter à l'instabilité des marchés, de s'adapter aux nouvelles exigences des salariés, mais aussi des réglementations, et aussi encore à l'individualisation des demandes clients. Donc, il y a des configurations flexibles qui sont à mettre en place en fonction de l'entreprise, de ses salariés, de la personnalité du dirigeant, de l'âge du dirigeant et de la taille de l'entreprise. Donc, il peut arriver que l'entreprise, que le chef d'entreprise, que le manager mette en place le lean management dont j'ai parlé dans l'audio précédent. Et là, je vais vous donner les 14 principes du lean management. Le premier, c'est de penser les choses sur le long terme, de fonder ses décisions sur une philosophie à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court terme. Ensuite, la fluidité, organiser les processus en flux pour mettre à jour les problèmes. travailler en flux tiré, c'est-à-dire utiliser des systèmes tirés pour éviter la surproduction. L'automatisation avec une touche humaine crée une culture de résolution immédiate des problèmes de qualité du premier coup. La standardisation des tâches, qui est le fondement de l'amélioration continue et de la responsabilité des employés. Donc l'amélioration continue, normalement, vous, tous ceux qui ont fait une VAE doivent être passés sur la roue de Deming, D-E-M-I-N-G, qui est la roue de l'amélioration continue. Donc je vous invite à aller sur Internet et à cliquer la roue de Deming, D-E-M-I-N-G, pour voir cette petite roue avec cette cale qui montre que l'amélioration continue est un processus continu et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ensuite, pour revenir au lean management, des contrôles visuels. Utilisez le contrôle visuel afin qu'aucun problème ne reste caché. Mettre en œuvre des technologies fiables, longuement éprouvées, qui servent les collaborateurs et les processus. Mettre en place une culture des leaders, former des responsables qui connaissent parfaitement le travail et qui vivent la philosophie et l'enseignent aux autres. Ensuite, faire monter en compétences les personnes de qualité, former les individus et les équipes exceptionnelles qui appliquent la philosophie de l'entreprise. Respecter et motiver les partenaires, respecter le réseau de partenaires et de fournisseurs en les encourageant et en les aidant à procéder. Ensuite, aller toujours sur le terrain pour bien comprendre les situations, prendre des décisions en consensus, décider en prenant le temps par consensus en examinant en détail toutes les options et appliquer rapidement les décisions. Pour cela, il faut maîtriser le territoire, donner du sens à la visibilité des projets et des axes, aligner la performance et mesurer la satisfaction du client en permanence, ce qu'on peut aussi appeler faire du management visuel, faire des réunions flash de 5 minutes, déléguer pour des problèmes simples à régler et visiter sur le terrain pour vérifier la résolution des problèmes, et piloter le plan de progrès, améliorer la rupture et fédérer l'équipe autour d'un objectif commun. Pour mettre en place une stratégie, le manager peut s'aider d'outils appelés carte mentale, carte cognitive, carte heuristique ou encore d'une matrice de SWOT. Normalement, la matrice de SWOT, entre les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas travaillé dans votre dossier, à la connaître. Matrice de SWOT, S-W-O-T. Je vais vous parler juste quelques instants de la carte mentale qu'on appelle mind map. La mind map, alors M-I-N-D, plus loin M-A-P, comme map, comme carte en anglais, la carte mentale. Vous mettez sur la barre de recherche mind map et vous mettez image, vous verrez de magnifiques mind map qui sont des représentations des schémas de pensée qui mettent du lien entre les idées et les informations et qui favorise la mémorisation faisant fonctionner les différentes parties du cerveau. Elle se lit en général dans le sens des aiguilles d'une montre. Les mots sont sur des branches qui donnent l'équilibre entre la logique et la réactivité. Cette carte mentale aide à la visualisation complexe d'idées en allant à l'essentiel et en permettant de communiquer l'ensemble d'informations complexes. En général, on utilise une feuille en format paysage, on met au centre l'idée, et de l'idée, on fait sortir une émergence de branches en y mettant des mots, des images, des couleurs, un thème par branche, et on place les idées liées aux mêmes branches. Pour ce qui est des couleurs, on utilise 3 ou 4 couleurs. Après, on peut y mettre plus, mais il vaut mieux identifier une couleur à un axe. Un mot, une ligne, une couleur, un axe. On peut même y mettre un peu d'humour. Mais l'important, c'est de pouvoir lire rapidement cette carte mentale. Voilà, donc je vous laisse sur cette carte-là de manière à aller sur Internet voir. Et pour, c'est du lien avec les ressources humaines. les objectifs du management des ressources humaines qu'on voit là maintenant. Les ressources humaines, leur objectif, c'est de recruter, former, motiver, améliorer les conditions de travail et assurer la sécurité et la santé au travail. Quand cette responsabilité est bien engagée, cela limite les dysfonctionnements, limite le stress, évite le turnover et évite bien évidemment les conflits sociaux. Voilà, donc on va continuer sur les ressources humaines à l'audio prochain, de manière à faire du lien entre les stratégies de l'entreprise et la gestion des ressources humaines, puisque la motivation des salariés dépend du style de management.